Durée, le père Philippe, 4 novembre 1982, Rimont.
Je situe tout de suite ce que représente, au point de vue philosophique, l'effort de la théologie naturelle, hein, de l'être à Dieu, autrement dit. Alors, ceux qui ont beaucoup de courage peuvent se mettre à lire le livre de l'être à Dieu. Parce que comme ça les aidera, c'est toujours bon. Parce que le cours doit aider à être intelligent, aiguiser l'intelligence. Alors, d'abord, petite introduction, montrer l'importance de cette question et bien faire comprendre que c'est une question philosophique et non pas une question de doctrina sacra, pour employer le langage de saint Thomas. La théologie dite naturelle, comme on dit, on pourrait dire théologie tout court. Aristote disait théologie, Platon disait théologie. On devrait dire théologie tout court. Aujourd'hui, on dit théologie naturelle, vous comprenez ? Pour bien distinguer la théologie qui part de la foi, qui est la doctrina sacra, telle que saint Thomas l'en parle. Parce qu'aujourd'hui, le mot théologie, tout de suite, on pense à la doctrina sacra. Alors, il faut quand même que nous comprenions l'effort que nous faisons est au niveau philosophique, au niveau métaphysique. Ça termine toute la métaphysique. C'est l'achèvement de toute la métaphysique. Alors, il faut donc bien situer comment se pose le problème de la théologie naturelle. Au terme de toute l'enquête métaphysique, de toute l'enquête de la philosophie première, le philosophe se pose la question. Après tout son cheminement, le philosophe se pose la question, la personne humaine est-elle la réalité derrière ? On doit se poser la question, tout simplement parce que il y a des traditions religieuses. Le philosophe n'a pas le droit de rayer ces traditions religieuses en disant ça ne signifie rien. C'est un a priori. Les traditions religieuses peuvent très bien impliquer quelque chose qui est vrai. Mais les traditions religieuses peuvent charrier aussi des quantités de choses qui sont plus ou moins vraies. Ce serait très intéressant de faire un cours, voyez, au niveau de ces traditions religieuses, ce qu'on appelle la philosophie religieuse. On regarderait toutes les traditions religieuses. Et regarder toutes les traditions religieuses, c'est intéressant parce que, de fait, on voit que ces traditions religieuses sont très diverses, l'Orient et l'Occident. Que ces traditions religieuses charrient des choses qui sont plus ou moins vraies, mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que pour toutes ces traditions religieuses, il y a un problème du créateur. Il y a un problème de la toute-puissance du créateur. Et le problème, par le fait même, de la créature. Même si c'est encore une fois quelque chose de très très difficile à préciser. Par exemple, la moira grecque. Donc la moira grecque, vous voyez ce que ça représente, c'est la destinée. Mais la destinée fait nécessairement appel au contact de la créature par rapport au créateur. Vous êtes téléguidé. En doctrina sacra, on parlera du problème de la prédestination. Et la moira grecque, c'est un problème. Je n'ai pas le droit de dire, ça n'a aucun intérêt. Pas du tout. Ça, pour vous, êtes un imbécile, si vous dites ça. Tout simplement. Ça a un intérêt. Il y a des quantités de personnes, des quantités d'hommes qui ont vécu sous cette dépendance de la moira. En disant, je suis sous ce point de vue de la destinée, des jours fastes et des journées fastes. Vous voyez, quand on est nombreux, la moitié de la communauté, c'est les jours fastes, l'autre moitié, c'est les journées fastes, ça fait partie d'une particule, d'une chose particulière. Il y a des gens comme ça, des gens très sérieux qui vous disent que je ne peux rien entreprendre aujourd'hui parce que c'est une journée faste. J'ai rencontré encore des gens comme ça, je ne dis pas les noms parce qu'il y en a qui peuvent me connaître, mais qui vraiment très sérieusement disent ça. je suis né sous telle planète, il y a quelque chose de juste, hein. Faut pas dire que c'est de la bêtise, non, non. Je suis né sous telle planète, alors je sais qu'il y a des jours qui sont mauvais pour moi, et il y a des jours qui sont bons. C'est le problème, voyez, de savoir que représente la créature par rapport au créateur et par rapport à l'univers. Puisque je suis une partie de l'univers. Donc les traditions religieuses charrient des quantités de choses que je n'ai pas le droit de dire « ça ne m'intéresse pas » si je suis philosophe. Hein. Si vous êtes un homme qui ne veut pas philosopher, alors c'est autre chose. Hein. Parce que je pourrais... Mais si je suis philosophe, je vais pouvoir garder ces traditions religieuses. Or, ces traditions religieuses me parlent d'une réalité qui transcende, qui dépasse tout. Je dois donc me poser le problème. Est-ce que ma philosophie première, ma philosophie de ce qui est en tant qu'être, qui aboutit au terme à la personne humaine, toute la philosophie première, dans sa partie d'analyse, aboutit au problème de la personne humaine. Je dois donc me poser la question, est-ce que, au-delà de la personne humaine, existe-t-il une autre réalité? Ou est-ce que la réalité suprême, c'est la personne humaine? C'est un problème philosophique. Et je n'ai pas le droit de le résoudre en disant, oh, ça n'a pas d'intérêt, Non, c'est le grand problème humain. Hein. C'est le grand problème humain. Alors, c'est possible que j'aboutisse à dire la philosophie première ne peut rien dire de cela. Ben, nous verrons. C'est une position philosophique. Cette position philosophique a existé. On doit encore tenir compte de ça, parce que ça fait partie des positions philosophiques. Je peux très bien, mais je dois me poser la question. Oui, donc, la première chose qu'il faut comprendre en théologie naturelle, c'est qu'il y a une question fondamentale à laquelle je dois poser vraiment et très sérieusement, c'est difficile de se poser la question, uniquement se poser la question, existe-t-il une réalité au-delà de la personne humaine? Alors je peux dire, il existe l'univers, oui, mais l'univers est-il au-delà de la personne humaine ou est-ce que la personne humaine est le point ultime de l'évolution? C'est vrai, la personne humaine implique l'esprit. L'univers physique, s'il est matériel, il est moins d'esprit. Et donc l'univers comme tel est-il pour la personne humaine ou la personne humaine est-elle pour l'univers? Vous voyez, c'était une question philosophique extrêmement importante au point de vue de ma finalité. Est-ce que mon bonheur humain est-il au-delà de ce tout que représente l'univers? Ou est-ce que je suis un être qui suis une partie de cet univers et de ce tout? Quel est le lien entre cet univers et ce créateur? Oui, c'est toutes ces questions qui me sont posées à partir d'une tradition religieuse. Je vois que dans les traditions religieuses, c'est traité très différemment. Il y a des traditions religieuses qui sont et qui impliquent une espèce de ce qu'on appelle, si vous voulez, un panthéisme. Dans le panthéisme, Dieu s'identifie presque avec l'univers. Alors, si Dieu s'identifie avec l'univers, je suis une partie de l'univers. Mais je suis relatif à cet univers. Et je ne peux pas dire que je suis au-dessus de cet univers. Si au contraire, l'univers n'est pas relié à Dieu et qu'il est une créature et une créature matérielle, même si c'est immense, c'est quand même une créature matérielle. Mon esprit, dans cette qualité, est au-dessus. Cet univers pourra avoir une influence sur mon corps, pourra avoir une influence sur ma vie biologique, sur ma vie psychique. C'est évident qu'en vue du soleil ou pas de soleil, le psychisme est différent. Donc il y a quelque chose qui intervient là. Mais il y a l'esprit qui domine. Alors est-ce que l'esprit domine? Est-ce que je peux rejoindre le créateur qui est l'esprit, l'être premier? Vous voyez, la grande question, c'est la grande question, ça. Cette question se pose du fait même qu'il y a des traditions religieuses. Deuxièmement, cette question se pose pour le croyant, qui a la foi, le chrétien. Ici, je prends la foi chrétienne, hein, parce que Chez le musulman, ce serait un tout petit peu différent. Chez le juif, un tout petit peu différent. Je prends la foi dans ce qu'elle a de plus évolué, si vous voulez, la foi chrétienne. Et dans la foi chrétienne, la foi catholique. Vous voyez, c'est exprès. Je sais bien qu'il y a diverses positions au point de vue de la foi. Au point de vue de la foi catholique, le problème se pose d'une manière très nette. Et le catholique n'a pas le droit de l'évacuer. Il y a une tradition, la grande tradition des pères de l'Église. J'ai fait toute l'enquête, croyez-le, parce que ça m'intéresse de savoir ça. La grande tradition des pères de l'Église, qui disent tous, il n'y en a que très peu, c'est très 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 minime, il y en a un ou deux. Mais tous les pères de l'Église disent que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu. Ce que saint Thomas a repris. Mais saint Thomas, là, parle au nom de toute la tradition chrétienne. L'intelligence humaine est capable d'atteindre l'exister. L'ANSI. L'exister de Dieu. Bien que l'intelligence humaine soit incapable d'atteindre ce qu'est Dieu, l'essence de Dieu. Ah, vous voyez ce fameux problème de l'existence et de l'essence, hein ? C'est pas si commode que ça, bien comprendre. Eh bien, de fait, si je veux entrer un tout petit peu dans ce que représente la grande tradition chrétienne, la grande tradition catholique, je vois que la plupart des pères de l'Église, presque tous, disent que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu, mais que l'intelligence humaine est incapable d'atteindre le quid sit. Le quid sit de Dieu. Donc, l'ANSIT, oui, le QUICIT, l'essence de Dieu me dépasse complètement. Le Concile Vatican I, on ne parle pas beaucoup, mais qui existe quand même, le Concile Vatican I nous dit, et c'est une chose qu'on doit accepter, bien qu'aujourd'hui les quantités ne l'acceptent plus, mais ça n'a pas d'importance, ce n'est pas la question des statistiques, hein, quand il s'agit du dogme. Ce n'est pas la question des statistiques quand il s'agit de la vérité. Même la plupart du temps, vous savez bien ce qu'il y avait de bon chez les Grecs, quand ils disaient « Oh, la multitude dit ça », il y a des chances que ce soit faux. Il ne faut pas oublier cette chose-là, parce qu'il y a quand même quelque chose de bon là-dedans. Il y a quelque chose de juste. Et bien alors, vous allez dire que c'est très aristocratique. Non, ce n'est pas aristocratique. C'est tout simplement que ma pauvre petite intelligence humaine a beaucoup de peine d'atteindre la vérité. Elle a beaucoup de peine d'atteindre la vérité. Ça demande beaucoup d'efforts. Alors c'est plus facile, évidemment, de descendre le fleuve, de faire comme tout le monde, de dire comme tout le monde. Hein. Alors c'est plus facile. Le Concile Vatican I dit que l'intelligence humaine est capable par elle-même d'atteindre l'exister de Dieu. Par elle-même d'atteindre l'exister de Dieu. Ça, si je suis catholique, je suis obligé de l'accepter. Je dois l'accepter, ça fait partie de l'enseignement de l'Église. Paul VI l'a repris avec force dans son enseignement. Je crois qu'il n'y a pas un pape qui l'a repris avec autant de force que Paul VI. C'est d'autant plus éloquent. Paul VI l'a repris avec une très grande force dans l'enseignement du mercredi. Ça m'a beaucoup frappé. En montrant que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu. Et je n'ai pas eu beaucoup d'audience avec Paul VI, mais j'en ai quand même eu une avec des théologiens qui m'avaient invité, un petit congrès à Rome. Et ils avaient invité deux philosophes. Pas trop, c'était des gens embêtants, les philosophes. Pour les théologiens, beaucoup d'aujourd'hui. Alors, j'étais là, j'avais accepté. C'était des théologiens de Belgique et de Paris, et d'Italie. Et Paul VI a dit dans son audience, le plus grand danger pour aujourd'hui, pour la théologie catholique, c'est le fidélisme. Le plus grand danger, il a insisté, le plus grand danger pour les théologiens d'aujourd'hui, c'est le fidélisme. J'ai rapporté cette parole à un théologien de Rome que je connais bien, donc je ne dis Paul, non, c'est pas la peine. Mais il m'a dit oui. 95% des théologiens d'aujourd'hui sont fidélistes. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, j'aurais dit 80. Lui, il a dit 95. Non. 95 des théologiens. Alors, je précise ce que c'est que le fidéisme. C'est quand même intéressant à savoir. Parce que c'est tout le problème. Vous dites, nous sommes en majorité chrétiens ici, n'est-ce pas ? Et en majorité catholique. Donc, si nous sommes catholiques et chrétiens, nous devons comprendre le problème qui se pose. Ça fait partie de l'introduction. Nous ne sommes pas encore dedans. Mais ça fait partie de l'introduction. Nous devons respecter les traditions religieuses. C'est très important de respecter les traditions religieuses, toutes les traditions religieuses. Et puis, si nous sommes catholiques, nous devons comprendre l'enseignement que donne l'Église. L'Église nous dit que nous devons comprendre que l'intelligence humaine est capable par elle-même d'atteindre l'existence de Dieu. Le fidéisme consiste à dire « Seule la foi me permet d'atteindre Dieu ». C'est ça la position du fidéisme. Vous voyez que cette position du fidéisme a pris une importance énorme à partir de Luther. C'est la grande position de Luther. Faut pas l'oublier. Luther dit textuellement que l'intelligence humaine, à cause du péché, à cause et conséquence du péché originel, l'intelligence humaine est corrompue. Et donc elle ne peut plus faire de la philosophie première. Et elle ne peut plus atteindre la vérité et surtout atteindre l'exister de Dieu. Alors, à partir de Luther, c'est assez normal, à partir de Luther, on entre dans toute une série de philosophes qu'on appelle des agnostiques qui disent que l'intelligence humaine est incapable par elle-même d'atteindre l'existence de Dieu. Ils ne disent pas seulement « Je n'arrive pas à démontrer l'existence de Dieu ». Ça serait honnête. Ce serait honnête, hein. « Je n'arrive pas par moi-même à prouver l'existence de Dieu ». Mais ils disent « L'existence humaine, l'intelligence humaine est incapable par elle-même ». Ça, c'est très important pour nous, voyez, de bien comprendre ça. Parce que il y a des petits restes de fidéisme dans le fond de nous-mêmes. Hein, ça, j'en suis sûr, si j'avais un appareil pour détecter le fidéisme qui existe en chacun d'entre vous, je verrais de temps en temps, vous savez, on ferait passer comme à la douane pour voir s'il y a des objets, mais bon, ça serait merveilleux. Ouais. Tiens, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qui grince. Et que dit Kant ? Parce que Kant a joué un rôle évidemment très important là-dedans. Je voyais des théologiens, des philosophes, il n'y a pas si longtemps que ça, autour des dominicains et des pères jésuites de Paris, bon, qui ont dit la position de Kant est une position telle qu'on ne peut pas revenir avant. Comme si Kant était un père de l'Église. Eh bien, Kant n'est pas un père de l'Église. Non, c'est pas un père de l'Église, Kant. Et je dis bien, et nous le verrons, parce que c'est très important la position de Kant là-dessus. On verra que la position de Kant là-dessus, c'est que Kant n'a vu qu'un aspect du problème. Il a dit des choses très intelligentes, mais sur un aspect du problème. Et il a généralisé. Et c'est là l'erreur. On regarde une partie et on généralise. Alors il faut essayer de comprendre. C'est évident que quand on regarde le point de vue, il ne faut pas oublier, Kant est dans un milieu protestant. Et donc il y a un a priori. Il est croyant, Kant. Kant ne dit pas du tout que Dieu n'existe pas. Mais c'est par le point de vue de la foi. Et puis par le point de vue moral. Mais une preuve morale qui est très particulière et très spéciale, par laquelle l'intelligence humaine est obligée de reconnaître que l'existence de que Dieu existe. Vous voyez ? Il montre par là. Alors, je voyais très bien dans cette réunion de ces théologiens, de ces philosophes sur le problème de Dieu, on disait... Il n'y a plus qu'une seule voie d'accès, celle que Kant nous a indiquée, c'est-à-dire la voie d'accès morale. Mais l'intelligence humaine, au point de vue spéculatif, au point de vue philosophique, est incapable d'atteindre l'existence de Dieu. Alors vous voyez, c'est un demi-fidéisme. Un demi-fidéisme, on dit l'intelligence humaine pratique peut, mais ça ne prouve rien du tout. Quand vous regardez du reste attentivement Kant, vous voyez qu'en définitive, Kant dit que l'intelligence humaine ne peut pas. Le premier Kant le disait. C'est très curieux. le premier Kant. Et puis alors après, il est venu dans une position critique, en disant que l'existence de Dieu, l'intelligence humaine est incapable de pouvoir atteindre l'existence de Dieu. Eh bien, là, l'Église maintient, et ça il faut le comprendre, l'Église maintient l'exigence d'une philosophie première, parce que seule, comme nous le verrons, la philosophie première peut remonter jusqu'à l'existence de Dieu. C'est pour ça que l'Église le maintient. Alors on peut très bien ne pas le comprendre, ça c'est différent. Pas on peut être un excellent chrétien sans avoir une intelligence métaphysique. Mais on dit, la métaphysique, je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. C'est possible, ça, c'est très très possible de ne pas arriver à comprendre ce que c'est. Parce que c'est difficile de comprendre ce que c'est que la métaphysique. Aristote disait qu'on était métaphysicien à partir de 45 ans. Et il était grec. Les Grecs ne sont pas précisément en retard. Donc c'est quand même quelque chose, hein, qu'on arrive à être métaphysicien uniquement à partir de 45 ans. Alors, l'honnêteté intellectuelle consiste à dire, je ne comprends pas. Ça, c'est, on a toujours le droit de dire qu'on ne comprend pas, hein, c'est tout à fait normal. Mais dire que l'intelligence humaine ne peut pas par elle-même atteindre l'existence de Dieu, c'est aller contre l'enseignement de l'Église. Il faut donc au moins laisser le problème ouvert. L'Église ne précise pas comment l'intelligence humaine, hein. Elle dit l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu, sans préciser quel moyen, sans préciser de telle ou telle manière. Ça, c'est le philosophe qui doit le faire. Faut bien, hein, l'Église ne canonise pas les cinq voies de saint Thomas, heureusement, hein, l'Église ne les canonise pas, mais l'Église dit simplement que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu. Donc, très gros problème, vous voyez, pour le philosophe chrétien, je dis bien pour le philosophe qui est chrétien, je ne dis pas pour la philosophie chrétienne, mais je dis pour le philosophe chrétien. Pour le philosophe chrétien, il y a un très gros problème, ça c'est sûr. Il y a un très gros problème. Un chrétien peut-il écrire, comme le livre de Marion, Dieu sans l'être? Ou est-ce que ce n'est pas aller directement contre sa foi? C'est important de se poser ces problèmes. On sera confronté constamment dans ces problèmes-là aujourd'hui. Alors, il faut essayer soi-même, hein, d'essayer de se poser le problème. Je vous affirme que pour moi, personnellement, hein, ça a été la recherche constante de toute ma vie philosophique. Quand j'ai eu un professeur au Sechuar, un dominicain, il vit encore, je ne dis pas le nom, il faisait première année de théologie, le Dede Uno. Donc, Dede Uno commence tout de suite les voies d'accès vis-à-vis de l'existence de Dieu. J'avais fait 3 ans de philosophie. Au bout de 3 ans de philosophie, on peut quand même poser certaines petites colles intéressantes aux théologiens. N'est-ce pas ? 3 ans de philosophie. Alors, après qu'il avait exposé, je lui dis, je comprends absolument pas ces 5 voies de saint Thomas. Mais je vois pas. Vous avez exposé, vous avez lu saint Thomas, vous avez dit, mais je comprends pas. Essayez de m'expliquer un tout petit peu. Qu'est-ce que veut dire saint Thomas? Parce qu'à première vue, on ne voit pas. Alors, il m'a simplement dit, je vous lis saint Thomas, mais je ne peux pas vous donner d'autres explications. Autrement dit, il ne comprenait pas lui-même. C'est pas parce que lire saint Thomas, très bien, il faut lire saint Thomas, c'est déjà très honnête de le lire. Et comme il était dominicain, il s'appuyait sur saint Thomas, comme sur son sycomore, n'est-ce pas, pour essayer de voir un peu plus. Mais quand on lui disait, expliquez un peu le sycomore, je ne vois pas, je ne sais pas ce que c'est. C'est à partir de là que je suis revenu aux sources de saint Thomas. Il est évident que les 5 voies de saint Thomas ne peuvent pas se comprendre indépendamment d'Aristote. Indépendamment de la philosophie, de la métaphysique d'Aristote. C'est comme ça que je suis revenu à Aristote, pas autrement. Oui, c'est à cause de la fidélité à l'Église. C'est quand même intéressant de voir ça. Je vous le dis parce que c'est quand même important de voir. À cause de la fidélité à l'Église. Si je suis fidèle à l'Église jusqu'au bout, je dois me dire que mon intelligence humaine est capable, par elle-même, uniquement en ligne philosophique, d'arriver à atteindre l'existence de Dieu. C'est un très gros problème, hein, c'est un problème sérieux, je veux dire. On n'a pas le droit de télescoper en disant, on ne sort qu'une espèce d'importance, depuis quand c'est terminé? Non, le catholicisme n'est pas terminé depuis Gant. Et Vatican I a précisé que, de fait, l'intelligence humaine pouvait, même après Kant, l'Église respecte Kant, mais Kant est en dehors de l'Église catholique, c'est bien évident. N'est-ce pas ? Freud est en dehors de l'Église catholique. Ils peuvent être très intelligents, mais je n'ai pas le droit de les prendre comme des maîtres à penser. Parce que je serai en dehors de l'Église catholique. C'est très important de comprendre ça. Il faut être quand même lucide, hein, vis-à-vis de notre foi et vis-à-vis de notre intelligence. On en reverra sur le problème de la foi et de l'intelligence. L'intéressant, c'est de poser le problème. Troisième position. Je donne les raisons, n'est-ce pas, pour essayer de comprendre l'importance de ce problème. Alors, troisième position, c'est que la philosophie première, par elle-même, indépendante des traditions religieuses, indépendante de la foi, la philosophie première, par elle-même, dans son dynamisme propre, dans son développement propre, arrive à se poser la question, la personne humaine est-elle la réalité ultime? Je dois me poser la question, à l'intérieur même de ma métaphysique. La personne humaine est-elle l'ultime réalité? La métaphysique, la philosophie première, se termine sur le problème de la personne humaine. Ceux qui ont fait un peu de métaphysique le savent. Hein? Après l'analyse de la substance, après la découverte de la substance, après la découverte de l'acte, on arrive à se poser le problème, qu'est-ce que c'est que la personne humaine ? Une fois que j'ai essayé de préciser ce que c'est que la personne humaine au point de vue métaphysique, au point de vue philosophie première, je me pose la question, et je dois me poser la question, est-ce que la personne humaine est-elle la réalité dernière ? Donc vous voyez les trois motifs qui m'obligent, en tant que chrétien, en tant qu'homme religieux respectant les traditions religieuses, et en tant que philosophe. Il y a trois voies d'accès qui me posent le problème, est-ce que l'intelligence humaine peut atteindre un absolu ? La personne humaine n'est pas un absolu. Elle n'est pas un absolu dans l'ordre de l'être. Puisque nous existons tous, et donc nous ne sommes pas un absolu. Vous existez comme personne humaine, moi aussi. Alors nous sommes deux, nous ne sommes donc pas l'absolu, l'absolu est toujours un. Dès qu'il y a deux absolus, il n'y a plus l'absolu. Hein. C'est évident, au point de vue de l'être. Or nous existons, beaucoup de personnes humaines existent, on est tous d'accord. Il n'y a pas qu'une personne humaine qui existe. Hein. Nous existons multiples, donc c'est le problème de la multiplicité de l'unité. Il y a de multiples personnes qui existent, donc ce n'est pas l'absolu, dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de ce qui est. La personne humaine implique un absolu dans sa dignité morale. Elle implique un absolu dans l'ordre de sa finalité, dans l'ordre de l'esprit. Mais elle n'implique pas l'absolu dans l'ordre de ce qui est. Alors on doit se poser la question, est-ce que l'intelligence humaine est capable de découvrir un absolu dans l'ordre de ce qui est ? Y a-t-il un absolu dans l'ordre de ce qui est ? Est-ce que en fait, y a un absolu dans l'ordre de la réalité ? Donc voilà les trois aspects. J'ajoute un quatrième problème qui est très important pour nous, justement à cause de Kant. C'est vrai que la situation pour nous est post-kantienne, et donc surtout lorsqu'il s'agit de l'exister, de la manière de prouver l'existence de Dieu. Je dois essayer de comprendre que je n'ai pas le droit, a priori, de dire que l'intelligence humaine est incapable d'atteindre l'existence de Dieu. Mais je dois ouvrir les portes, autrement dit, devant tant de portes fermées aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, je vous dis, 95% des théologiens catholiques, enseignant dans les universités et les séminaires, disent que l'intelligence humaine est incapable d'atteindre l'existence de Dieu. Et ils le disent sans avoir fait de métaphysique. Ça qui est terrible. Donc ils le disent en a priori. Je dois donc ouvrir la porte et montrer que je n'ai pas le droit, a priori, de dire que l'intelligence humaine est incapable d'atteindre l'existence de Dieu. Ça, c'est intéressant à voir. Alors, comment je vais le dire? Et je peux même aller plus loin et dire que l'intelligence humaine peut, par elle-même, atteindre l'exister d'un absolu dans l'ordre de l'être. Deux problèmes. Hein. Là, c'est le problème critique. Hein. Problème critique. Je dois essayer de comprendre comment l'intelligence humaine n'a pas le droit, a priori, de dire que je ne peux pas atteindre l'exister de Dieu. Ceci, c'est très net. Hein. Prenez ce qu'un athée dit avec tellement de force. Toujours intéressant de prendre la petite parcelle de vérité chez un athée pour bien montrer qu'on est ouvert. Hein. C'est pas Aristote ici que je l'appelle. Je l'appelle à Feuerbach. Feuerbach est la source de l'athéisme occidental. Feuerbach est la source de l'athéisme occidental. Feuerbach dit qu'il y a dans l'intelligence humaine une capacité infinie. C'est intéressant d'entendre dire ça. Après Kant, c'est pas un aristotélicien qui dit ça. Feuerbach dit que l'intelligence humaine est ouverte à l'infini. Que la volonté humaine est ouverte à l'infini. Il y a dans l'intelligence humaine une capacité illimitée. Du reste, tout savant le reconnaît. Quand vous demandez à un biologiste où en est sa science, le biologiste dira voilà où j'en suis maintenant, mais ça peut s'ouvrir encore demain. Il y a dans la recherche quelque chose d'illimité. C'est quand même très curieux, ça. Jamais vous pourrez dire à un savant « Ah, maintenant c'est terminé votre recherche. » Vous ne pouvez pas dire ça à un savant. Vous ne pouvez pas dire ça à un philosophe. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « Maintenant, vous avez atteint le plafond, terminé. » Non, il dira « Écoutez, je sais très bien ce que c'est que l'intelligence. » Et je sais que l'intelligence, elle progresse toujours. Elle progresse toujours, l'intelligence. Au niveau de ma vie biologique, j'atteins un palier, un certain âge, hein, et je reste le plus longtemps possible sur ce haut plateau. Puis tout d'un coup, ça dégringole. Hein. On voit que ça descend. Je n'ai plus la même possibilité de faire tel ou tel exercice. Voyez, à Fribourg, c'était de monter à l'université en le moins de temps possible. Alors on voyait très bien que les pères d'un certain âge, ils soufflaient. Bon, alors ça prouvait que le haut plateau était dépassé. Tandis que tant qu'on était sur le haut plateau, ça allait. Je prends ce petit exemple, hein. Parce qu'il m'était familier, mais je pourrais en prendre de quantité d'autres. Vous pourriez prendre des exemples sportifs, variant que de fait, au point de vue sportif, on peut faire ça jusqu'à tel âge, et puis après, il faut faire attention au cœur, hein. Faire attention au cœur, parce que le cœur, s'il montre que vous devez faire un petit peu attention à ne pas aller trop vite. Ce qui m'intéresse ici, c'est que de fait, quelqu'un comme Feuerbach, tous les savants d'aujourd'hui, tous les philosophes d'aujourd'hui, Merleau-Ponty en tête, reconnaissent qu'il n'y a pas de limite à la recherche. C'est quand même intéressant ça. Tandis que si j'y suis conscient, il y a une limite à la recherche. Alors je fais sauter Kant uniquement par là, vous voyez. C'est quand même intéressant de prendre une réflexion ad hominem. C'est qu'il n'y a pas de limite à l'intelligence humaine. Alors je peux dire, je suis arrivé là. Oui, ça c'est vrai, je suis arrivé là. Mais je vous affirme, hein, alors ça je vous donne ça à titre d'expérience personnelle, eh bien on progresse toujours en métaphysique. On progresse toujours en métaphysique. Il y a des problèmes métaphysiques que je n'ai vraiment découvert qu'il y a que quelques années. Le problème de la causalité, de la participation et de la causalité, qui est un problème terriblement difficile. Eh bien, c'est vrai. Je l'ai découvert vraiment, je crois, qu'il n'y a que quelques années. Avant, ça restait confus, dans le brouillard. Et au fond, c'est constamment comme cela. Quand il s'agit de rechercher la vérité, on sait très bien qu'il y a toujours possibilité d'aller plus loin. Autrement, on arrête sa recherche et on plafonne, et c'est plus philosophie de plafonner. C'est pas philosophie. C'est qu'on doit rechercher indéfiniment. Donc, ça c'est très très intéressant. Je n'ai pas le droit, a priori, de dire que l'intelligence humaine est incapable d'atteindre l'absolu. L'absolu, s'il existe dans l'ordre de l'être. Je n'ai pas le droit, puisque mon intelligence dans sa recherche est ouverte à tout. Elle est infinie. Elle a une capacité infinie. C'est un Bauer extraordinaire. Hein, il a et plus mon intelligence se développe, plus j'ai envie d'avancer. C'est merveilleux, ça. Il faut amorcer la pompe, et une fois qu'on l'a amorcée, c'est pour toute la fin de la vie. C'est vrai, une fois qu'on a mordu un peu à la métaphysique, quand on a mordu un peu à la philosophie, ça reste ouvert pour toute sa vie. Et on en a besoin. C'est une nécessité de vie. On a besoin de ça. Et c'est très beau, ça, parce que ça, c'est la vitalité qui est en nous. Hein. Dans l'ordre surnaturel, encore beaucoup plus. Mais dans l'ordre surnaturel, vous voyez, c'est au-delà de notre conscience. Tandis que là, c'est dans notre conscience. J'ai conscience de cet appétit naturel de l'intelligence, et cet appétit naturel de l'intelligence ne peut pas être limité. Bon, ça, première constatation. Constatation de fait. Allons un peu plus loin. Non, hein. Considérons cette chose très très belle de la métaphysique, que l'intelligence est capable de se poser la question qu'est-ce que c'est que l'être ? Nous le verrons ça. Mais ici je présuppose à qui ? Qu'est-ce que c'est que l'être ? L'intelligence est capable de se poser la question. Extraordinaire ça. Qu'est-ce que c'est que l'être ? À partir des réalités qui sont autour de moi. Donc l'intelligence est capable d'entrer en métaphysique. C'est quand même grand, ça. C'est intéressant de se poser la question. Nous le verrons, donc je peux le présupposer à qui. Si l'intelligence est capable de se poser la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», toutes les réalités qui existent, l'intelligence est capable. Je ne dis pas de les saisir pleinement et totalement, mais au moins de dire « oui, oui, il y a quelque chose ». L'horizon d'intelligence, comme on dirait dans un langage moderne, l'horizon d'intelligence, c'est l'être. Et donc, il n'y a que ce qui n'est pas, qui est en dehors de l'horizon d'intelligence. Alors, vous allez dire donc, que Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, il est en dehors de l'horizon d'intelligence. Et si Dieu est... Alors, évidemment, il y a un subterfuge, vous voyez, dire « Dieu est en dehors de l'être ». Mais au nom de quoi vous dites ça ? Au nom de rien du tout, simplement d'un a priori, en vous appuyant sur Heidegger. Et Heidegger ne dirait même pas. C'est ça qui est mieux, Heidegger ne dirait même pas. Parce qu'Heidegger dit « l'intelligence est en attente ». Donc si elle est en attente, elle ne peut même pas dire que Dieu est en dehors de l'être. Pour pouvoir dire que Dieu est en dehors de l'être, ça prouve qu'on a compris ce que c'était l'essence de Dieu. Parce que seul celui qui a saisi l'existence de Dieu peut dire que Dieu est en dehors de l'être. Donc c'est un a priori terrible ça. Je ne peux pas dire que Dieu est en dehors de l'être. Il faudrait savoir ce que c'est que Dieu. Si Dieu existe, ben il est. Si Dieu existe, la créature que je saisis est moi-même qui existe, provient de Dieu. Il y a donc un petit cordon ombilical qui est l'être. Et ce petit cordon ombilical qui est l'être fait que, oui, il y a une possibilité de remonter. Évidemment, c'est vertical, je suis tout à fait d'accord, c'est vertical, c'est pas commode à remonter. Mais c'est quand même quelque chose qui me permet de remonter. Mon intelligence est ouverte à l'être, puisqu'elle se pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? C'est très très beau, vous savez, de vraiment se poser la question. Il faut se poser la question, c'est vital pour notre vie intellectuelle. Qu'est-ce que c'est que l'être? Une fois que vous vous posez sérieusement la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez que votre intelligence est ouverte à tout. Alors, où vous prétendez que votre intelligence est capable d'atteindre l'essence de Dieu et que l'essence de Dieu est en dehors de l'être, mais au nom de quoi vous dites ça? Au nom de quoi? Au nom de votre philosophie? Tout ce que vous constatez autour de vous existe. Il est. Alors, au nom de quoi vous le constatez? Vous ne savez pas. Donc, c'est la prière. Donc, c'est pas philosophique. Et si je suis croyant, je dois dire que Dieu s'est révélé lui-même. Alors c'est la fameuse révélation de Dieu. Je sais très bien que c'est très difficile exégétiquement de parler de cette grande révélation de l'Exode. Vous savez, je suis celui qui est. Mais ce qui est très curieux, c'est que pendant presque 2000 ans, on a toujours dit que ça signifiait quelque chose. Il faut attendre notre âge d'aujourd'hui pour dire que ça ne signifie rien. Ça c'est autre chose, hein. Ça fait partie de ces choses particulières. Et il faut voir comment on dit quand ça ne signifie rien du tout et qu'on donne une interprétation qui est tout à fait différente de celle qui est donnée dans la tradition. Attention, on le dit au nom de quoi? Premièrement, on le dit au nom d'une philosophie. Oui, la pétition de principe. Est-ce que vous êtes croyant ou est-ce que vous êtes philosophe? Est-ce que c'est votre philosophie qui juge votre foi? Donc, de toute façon, on tombe dans un a priori. C'est très très important. Vous voyez, on touche quelque chose de très très important. Donc, je dis que, au point de vue critique, je dois dire d'abord que mon intelligence est ouverte à l'infini. Donc, je n'ai pas le droit a priori de dire que mon intelligence est incapable d'atteindre quelque chose qui serait un absolu. Puisque mon intelligence est ouverte à une recherche indéfinie, illimitée. Deuxièmement, mon intelligence, alors la compréhension, et l'extension de la compréhension, tout simplement les deux aspects. L'extension de l'intelligence et la compréhension de l'intelligence. L'extension de l'intelligence, la recherche est infinie. C'est toujours par l'extension qu'il faut commencer, vous savez, c'est un petit truc. C'est toujours par l'extension, puisque l'extension est plus facile à comprendre. Alors, la recherche est ouverte à l'infini. Et puis la compréhension, mon intelligence s'est ouverte à l'être. Oh. Alors je n'ai pas le droit de dire que Dieu est en dehors de l'être. Je n'ai pas le droit de dire. C'est moi pas le droit. Parce que si je dis que Dieu est en dehors de l'être, ça prouve que j'ai compris l'essence de Dieu. Parce que pour moi, toutes les réalités qui existent sont. Et l'exister, c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans toutes les réalités que je constate. Si c'est l'exister qui est le plus fondamental dans toutes les réalités que je constate, je dois donc dire que toutes ces réalités qui existent, si Dieu existe, elles dépendent d'un autre être, cordon ombilical qui ne peut être que l'être. Quelle heure? Encore 5 minutes encore. Très bien. Parce que j'avance. Voilà, je crédit que celui qui était de garde dort. Donc, ceci c'est pour. Alors, réfléchissez là-dessus, hein, parce que là, ce cours sur l'existé de Dieu, vous comprenez très bien que c'est quand même quelque chose de capital pour nous. Hein. Bon, ceci c'est pour introduire. Maintenant, encore une remarque. Alors, autre chose. C'est montrer l'importance de cette question. Là, je retrouve l'ordre. L'importance de cette question. Vous comprenez très bien, j'espère, du moins, que si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas, c'est quand même capital pour la vie humaine. Donc, au niveau philosophique, on peut dire que c'est la grande question et que tout se ramène à ça. Si je fais de la philosophie, c'est pour ça. C'est pas pour autre chose, c'est pour pouvoir montrer que mon intelligence humaine est capable d'affirmer qu'il existe un être premier. Parce que si cet être premier existe, qu'il est mon créateur, je peux donc comprendre qu'il y a dans l'homme un lien avec Dieu et que je dois l'adorer. J'arrive donc à montrer, grâce à cette découverte de l'exister de l'être premier, que l'homme est un être religieux. Et vous comprenez que dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre monde matérialiste, dans notre monde athée, combien il est important de pouvoir montrer vraiment par l'intelligence, par une recherche philosophique, que l'homme, dans ce qu'il a de plus profond, est un être religieux. C'est-à-dire un être qui est fait pour Dieu. Il ne se définit pas par Dieu, mais il est fait pour Dieu. Et donc l'homme ne peut pas atteindre toute sa plénitude uniquement en restant dans l'homme. L'homme est la seule réalité parmi les réalités que je constate qui ne s'achève pas en lui-même. Le crapaud s'achève en lui-même parce qu'il est crapaud, tandis que l'homme ne s'achève pas en lui-même. L'homme demande un dépassement à l'égard d'une réalité suprême, à l'égard d'un absolu qu'il atteint. Et cet absolu, il peut reconnaître tout le problème de la création. Il peut reconnaître qu'il est en dépendance étroite de cette réalité suprême, que cette réalité suprême est son créateur. Et donc, il doit reconnaître cette dépendance à son égard. Et donc, le problème, et c'est ça qui est intéressant, le problème de la théologie naturelle aboutit nécessairement à fonder au plan philosophique, une philosophie religieuse. Ce n'est pas seulement regarder les traditions religieuses, mais comprendre métaphysiquement que l'homme, dans sa dernière dimension, est un animal religieux. Homo religiosus. Que l'homme, dans ce qu'il a de plus foncier en lui, est capable de remonter vers Dieu, alors là, de remonter affectivement, dans l'ordre pratique. Il démontre l'existence de Dieu spéculativement, et cette démonstration spéculative aboutit immédiatement à une conclusion pratique. L'homme doit adorer son Créateur. L'homme doit reconnaître sa totale dépendance à l'égard de son Créateur. Et reconnaître sa dépendance à l'égard de son Créateur n'est pas une aliénation, mais une libération. Que le vieux Plotin disait déjà, hein, dépendre d'une réalité qui est supérieure à nous, ce n'est pas une aliénation. Dépendre d'une réalité qui est inférieure à nous, c'est une aliénation. Dépendre d'une réalité supérieure à nous, c'est une libération. La théologie de la libération, c'est justement reconnaître comment nous découvrons cette dépendance à l'égard du Créateur. Eh bien, ça, c'est très important de voir cela. Alors, il y a un autre problème qui est très important avec ce problème de la création et ce problème de l'homme religieux, c'est d'essayer de comprendre le problème de l'âme immortelle. Je crois que le problème de l'âme immortelle, qui est donné selon les traditions religieuses, le problème de l'âme spirituelle immortelle ne peut se démontrer qu'après la création. C'est après avoir montré que nous sommes dépendants d'un Créateur que nous pouvons essayer de saisir qu'il y a en nous quelque chose d'immortel. Quelque chose de substantiellement immortel. Oui. Parce qu'on peut très vite montrer que l'esprit, par le fait même qu'il est esprit, est en dehors de la corruption. Donc on ne montre pas par là que l'âme est immortelle. Parce que pour montrer que l'âme est immortelle, il faut montrer qu'il y a en nous quelque chose de substantiel qui est au-delà de la matière. Et pour montrer qu'il y a en nous quelque chose de substantiel qui est au-delà de la matière, je crois qu'on ne peut le démontrer qu'à partir de la création. Oui. Donc il y a des très grands problèmes qui sont extrêmement intéressants à saisir, qui, je crois, nous permettent d'assumer tout ce qu'il y a d'intéressant dans la philosophie existentielle. Vous voyez, la partie, de cette dernière partie de la philosophie, une fois qu'on a démontré l'existence d'un être premier, qu'on a démontré qu'il existe un créateur, on peut montrer à partir de là le statut de la création. Statut existentiel, ou existential, si vous aimez mieux, de la création, de la créature, et donc de l'homme. L'homme est un être créé, je le dis une fois que j'ai regardé le problème de la création, un être créé qui dépend directement du Créateur par son âme immortelle. Et que l'âme immortelle vient nécessairement et directement de Dieu.